Alors, temps d'avance. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. C'est un grand monsieur, d'une grande famille, qui navigue dans le présent et surtout dans le futur. Les GAFA, il connaît. Les data, il connaît. Le big data, encore plus. Et il a aussi un temps d'avance. Prospectiviste, scientifique, écrivain. Il conseille en stratégie de nombreux grands de ce monde. Et grâce à Sylvain, pour vous, il va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. C'est un vrai privilège de l'avoir, monsieur Joël de René. Joël de René.
Donc, on va parler de choses assez sérieuses, mais quand même qui concernent tellement notre futur et tellement proche que ça va être assez pratique. Alors, vous le savez, on est rentré dans ce qu'on appelle la civilisation du numérique, mais il y a à la fois des contraintes et des avantages. En tout cas, des caractéristiques extraordinaires de cette civilisation du numérique, c'est l'accélération dans laquelle nous vivons. Le monde hyper connecté dans lequel nous sommes en permanence, avec des avantages et risques aussi. On accumule des données sur nous, ce qu'on appelle le big data in English. Donc on accumule toute une sorte d'informations, une série d'informations, et ce monde hyper connecté change notre travail, change l'entreprise, change le management, change nos relations les uns avec les autres. Tout est en train d'être complètement bouleversé. Et pour cela, comme le dit notre grand philosophe français Michel Serres, on n'est pas seulement dans une crise, on est dans un changement de monde, je vous l'ai dit. Un monde qui évolue à une vitesse exponentielle et qui fait qu'on rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle de plus en plus un écosystème numérique. Vous vous souvenez d'un truc qu'on appelait Internet ? C'est derrière nous. Pourquoi c'est derrière nous ? Parce que Internet, système de communication, s'est intégré dans un écosystème numérique dans lequel nous vivons. On ne va plus sur Internet, on est en quelque sorte dans Internet en permanence, connecté à l'environnement, connecté aux objets, connecté entre nous, et donc ça change tout. Je vais vous parler de cette évolution de l'écosystème numérique dans les prochaines années et vous montrer l'impact que ça a sur notre travail, sur le management, sur la structure des entreprises, sur la relation avec les clients. Tout ça parce que nous avons des nouveaux outils et surtout des nouveaux usages. Donc cet écosystème numérique, pensez que ça ressemble à une sorte de système nerveux dont nous serions les neurones, un cerveau planétaire en quelque sorte, en permanence auquel nous sommes connectés en permanence par nos outils de travail et qui a un impact considérable sur un grand nombre d'industries, avec quelques exemples, un impact sur nos vies et sur notre façon de travailler. Un impact, comme je viens de le dire, sur les systèmes de communication. Les systèmes de communication, Internet, c'est plus seulement Internet. Nous sommes dans un écosystème numérique avec la maison connectée, la ville intelligente, la voiture autonome, l'écran de télévision connecté, les objets connectés entre eux. Donc, ça va de plus en plus vite dans ce domaine-là. Ensuite, l'autre domaine dans lequel il y a un impact considérable du numérique, on va le vivre de plus en plus dans les années qui viennent, c'est l'énergie. Le mix énergétique qui rassemble les énergies renouvelables comme le soleil et le vent, mais qui sont intermittentes, avec des ressources permanentes comme la biomasse, la géothermie ou l'hydroélectricité. Ceci a besoin d'être connecté par le numérique grâce à ce qu'on appelle des grilles intelligentes qui sont capables de s'adapter à l'offre et la demande. C'est une révolution dans la transition énergétique. Autre secteur que vous voyez en trois, c'est ce qu'on pourrait appeler la coproduction décentralisée. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, grâce au numérique et à des machines spéciales, on peut passer des bits d'information à des objets physiques. Vous en avez entendu parler, ça s'appelle les imprimantes 3D. Aujourd'hui, leur prix diminue, leur vitesse s'accroît et elles sont tout matériaux. Plastique, ciment pour fabriquer des maisons, métaux, or, argent, cellules biologiques. Il y a même des imprimantes 3D qui impriment des tissus vivants. Et, comme vous le savez, on imprime déjà des aliments avec des imprimantes 3D. La NASA veut faire des pizzas pour les astronautes en voyage dans l'espace. Donc, révolution de la coproduction décentralisée. Révolution vis-à-vis du monde de la santé et de la médecine. Une révolution du numérique qui a déjà, et qui va avoir encore plus, un impact sur la big pharma, la pharmacie, et sur l'agroalimentaire. Pourquoi ? Parce qu'avec des outils placés sur nous, c'est ce qu'on appelle la e-santé. On peut mesurer l'évolution de sa santé en fonction de ce que l'on fait. de l'exercice, une alimentation équilibrée, le management du stress, on peut maintenant le mesurer sur soi. Et en le mesurant sur soi, on va vers ce qu'on appelle la prévention quantifiable, la prévention mesurable. Avant, les entreprises industrielles de l'agroalimentaire ou de la pharmacie disaient « la prévention, c'est un peu du pifomètre, on ne sait pas trop si ça marche ou pas ». Avec ces outils de e-santé, on peut mesurer ce qui se passe dans son corps. Au lieu de faire des selfies qui mesurent l'extérieur de son corps, avec ces outils, on va mesurer des health pour santé, des healthy, intégrer les paramètres de sa santé. Révolution incroyable du numérique sur nous, sur notre vie. Révolution du numérique, enfin, dans notre connexion symbiotique, le terme n'est pas trop fort. Rappelez-vous la symbiose. La symbiose, c'est le win-win entre deux espèces, ou entre le vivant et les plantes, entre le vivant et les machines numériques. Ça s'appelle une symbiose. Chacun en profite et en bénéficie. Eh bien, nous entrons de plus en plus en symbiose, en fusion de notre corps avec des outils métables et pas seulement des outils portables et notre environnement. Ce qui change déjà et va changer encore plus dans les 20 prochaines années, notre façon de travailler, notre relation entre nous, nos relations avec nos clients. Tout ceci grâce à un ordinateur extraordinairement puissant que nous avons tous dans nos poches, qu'on appelle le smartphone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, jadis, il y a 10 ans, c'était au temps des dinosaures, il y avait ce qu'on appelait les PC, les personal computers, soit sur un bureau, soit sur les genoux, un laptop. Et bien, c'est le PC, il est dans nos poches et il est 100 000 fois plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé des hommes sur la Lune dans les années 60. 100 000 fois plus puissant. Mais en même temps, il est localisé, il sait où il est, et comme il sait où il est, il devient une sorte de télécommande universelle. Donc non seulement c'est un ordinateur puissant qui vous permet de vous connecter à Internet, de parler entre vous, d'envoyer des photos, d'aller chercher des mots sur des moteurs de recherche à tout moment, à tout instant, mais en plus, et surtout, comme il est géolocalisé, il sait ce qu'il regarde, c'est une extension du doigt, une extension du cerveau, parce que je peux cliquer dans un environnement qui devient de plus en plus intelligent. Pourquoi ? Parce que cet environnement se dote de systèmes qui permettent d'augmenter la réalité. Je peux, avec ma télécommande universelle, mon smartphone, pointer mon smartphone sur une affiche à la Cité des Sciences, de la Géode par exemple, sur laquelle il y a des QR codes ou des puces RFID. Mon smartphone le voit et il m'envoie une vidéo. Ça s'appelle la réalité augmentée. Autre exemple de relation avec l'environnement, les notaires ont une appli, comme on dit, une app, qu'on peut télécharger sur iTunes, qui permet, quand on se balade dans des rues et qu'on a téléchargé l'appli, par exemple, à l'avenue de l'Opéra, de pointer son smartphone sur le deuxième étage des bâtiments et vous avez en temps réel le prix des appartements ou des bureaux au mètre carré, en temps réel. Ça, vos yeux ne le voient pas, normalement. Votre cerveau ne le voit pas. Ça s'appelle la réalité augmentée. C'est une incroyable révolution du numérique dans nos vies. Donc, l'environnement devient intelligent. L'environnement devient cliquable. Donc, retenez bien que notre évolution numérique, ce n'est pas seulement nous connectés pour s'envoyer des mails ou se parler, c'est nous connectés à des objets, eux-mêmes connectés entre eux et connectés à un environnement intelligent. Voyez, ça marche pour le bureau, ça marche pour la maison, pour une gare, pour un centre commercial, pour un musée, comme la Cité des Sciences, tout est connecté, un bureau, un hôtel, votre voiture. Je vous donne un exemple, avec cette sorte de télécommande universelle, on peut connecter sa voiture et avec elle, on peut la faire évoluer. Par exemple, si elle est coincée entre deux autres voitures dans un parking, vous ne pouvez même pas ouvrir la porte. Avec votre télécommande universelle, vous appuyez sur un bouton, la voiture a une appli dedans qui reconnaît, elle fait 10 mètres, elle s'avance et vous ouvrez les portières. Donc voilà des exemples d'environnements intelligents qui sont atteignables, alors que c'était impensable il y a encore 15-20 ans, avec cette télécommande universelle qui est dans nos poches. Et puis, dans le domaine de la santé, qui évidemment vous intéresse tous, entrepreneurs et indépendants que vous êtes, c'est que avec le domaine de la e-santé, on peut mesurer les effets de ce que l'on fait sur soi. Il y a un mot très important, si vous allez voir sur YouTube, vous tapez De René épigénétique, ça a été vu 5 millions de fois. Donc ça prouve que les gens sont intéressés. L'épigénétique veut dire qu'on peut modifier l'expression de nos gènes par notre comportement. En d'autres termes, l'alimentation, l'exercice, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, l'harmonie du réseau social et familial font que dans notre corps sont produits des substances qui vont sur les gènes et allument ou éteignent certains gènes. On avait cru que ça n'était possible qu'avec le système darwinien des mutations et de la sélection naturelle. Or là, en une semaine, je ne dis pas en 10 ans, en une semaine, on peut modifier certains gènes, les faire s'allumer ou s'éteindre par notre comportement. Et donc, on peut mesurer ce que l'on fait grâce à ce que j'appelle des tableaux de bord santé personnalisés qui se développent absolument partout dans le monde. Et beaucoup sont dessus. Évidemment, vous pensez bien que c'est Google avec, et Apple avec la e-santé. Ils se lancent tous dedans, c'est-à-dire qu'à bas prix, avoir la possibilité de porter sur soi un tableau de bord santé personnalisé ou l'avoir dans sa salle de bain ou l'avoir dans le living room ou dans la cuisine qui permet pas seulement de mesurer des paramètres de sa santé comme quand on fait son jogging, son pouls ou éventuellement sa tension artérielle, mais les intégrer entre eux. Ce qui est important, c'est d'avoir une intégration de ces éléments qu'on peut donner à son médecin qui de plus en plus va devenir un conseiller de vie et pas seulement un prescripteur d'ordonnance. Alors, puisque nous parlons de santé, justement, parlons-en, ce sont des choses qui vous intéressent tous, avec tous les produits extraordinaires dont vous faites la promotion. C'est qu'on sait maintenant, de manière absolument formelle, que les principales causes du vieillissement, il y en a beaucoup, mais c'est deux-là. C'est l'inflammation et l'oxydation. Le corps s'enflamme et le corps rouille avec l'oxydation. En fonction des mauvais aliments, la malbouffe, je vous rappelle que c'est ma femme et moi qui avons créé le mot de malbouffe en 1979 dans un livre qui a été un gigantesque succès, mais je vous le dis parce que on l'a donné à tout le monde, la malbouffe, on ne l'a pas protégée. C'est à vous, c'est à moi, c'est à tout le monde. Donc la malbouffe fait qu'on est oxydé par les mauvais aliments qu'on mange. La malbouffe fait que le corps crée de l'inflammation. Et l'inflammation conduit à des rhumatismes, conduit à la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer notamment, les cataractes, tout un tas de maladies dites dégénératives du troisième âge. Donc c'est dû à l'inflammation et à l'oxydation. Or, les aliments qu'on mange, malheureusement, sont trop gras, trop salés, trop carnés, trop sucrés. On le sait, mais les gens les aiment, parce que le goût est bon. Et l'industrie agroalimentaire nous pousse vers ça, pour faire en sorte que les jeunes en particulier boivent des boissons très sucrées, beaucoup trop sucrées, et on sait les risques de l'obésité. Ici, vous voyez que le fait de manger de la viande non seulement utilise des énormes surfaces de terrain, mais aussi produit du CO2 dans l'atmosphère, parce qu'il faut nourrir le bétail, il faut le transporter, il faut le changer d'un endroit à l'autre, il faut le mettre en élevage intensif. Alors comment faire pour éviter de manger trop de viande, de produire trop de CO2 et que ce soit dangereux pour notre santé? Eh bien, c'est de manger des protéines qui sont équivalentes à celles dans la viande et dans certaines de vos poudres, je sais qu'ils existent. Ces protéines sont fondées sur la complémentation alimentaire. Ceux qui ne le connaissent pas, rappelez-vous de ce mot. C'est peut-être un des plus importants que je dis avec l'épigénétique dans ma conférence auprès de vous aujourd'hui. La complémentation alimentaire, ça veut dire que si vous mangez du riz et des lentilles en même temps, la lysine et la méthionine se marient et vous donnent des protéines équivalentes à celles d'un beefsteak. Les populations traditionnelles le savent depuis longtemps. En Chine, c'est du riz et du soja. En Afrique du Nord, c'est des pois chiches et du couscous. Lysine, méthionine. Au Mexique, c'est des haricots rouges et du maïs, garbanzos. En Angleterre, c'est le porridge avec les céréales et du lait. Mais le lait venant des animaux. Donc ce n'est pas vraiment la complémentation. La complémentation idéale, c'est celle qui utilise la lysine et la méthionine parce que, comme vous le savez sans doute, on a 20 acides aminés dont on a besoin pour fabriquer les protéines de notre corps. Or, il y en a 8 qu'on ne peut pas fabriquer. On est obligé de les manger de l'extérieur, ces 8 acides aminés. Or, s'il en manque un, on ne peut pas fabriquer les protéines dont on a besoin. C'est comme un seau avec des bondes en bois, dont une est plus courte et la moitié de tous les autres. Vous ne pourrez jamais remplir ce seau plein. Il sera toujours rempli à la moitié, parce que l'eau s'écoulera par celle qui est la plus petite de tous. Eh bien, si vous manque une des protéines sur les 8 essentielles à notre vie quotidienne, vous ne pouvez pas fabriquer les protéines dont vous avez besoin. C'est ce qui se passe en Afrique quand on voit des enfants qui mangent du manioc, dans lesquels il manque la méthionine, et qui ont un gros ventre parce qu'ils ont beaucoup mangé de manioc. Ils sont rachitiques et leur cerveau n'a pas les protéines qu'il leur faut. Donc, la complémentation, c'est absolument fondamental pour faire en sorte qu'on ait les protéines dont on a besoin. Et grâce au numérique dont je vous ai parlé, on peut mesurer sur son corps qu'on a effectivement fait ce qu'il fallait pour être en bonne santé et vieillir moins vite, ce qui nous intéresse tous. Donc vous voyez la complémentation céréales, légumineuses, oléagineux, le maïs, le soja et les légumineuses, avec le tournesol, le colza, c'est absolument idéal. Donc une alimentation plus végétarienne, je ne dis pas végétalienne, on peut bien sûr manger des œufs, boire du lait, prendre des yaourts, mais l'essentiel, c'est manger moins de charcuterie, moins de viande, moins carnée. Et puis, et je sais que vous êtes là-dessus tous, je connais bien ce que fait NL. Donc, j'ai mis ici pour vous rappeler aussi que des produits naturels en synergie, pas seulement un, il y a des gens qui font des cures de jus de grenade, des cures de thé vert, tout seul. Non, c'est la synergie qui est importante. C'est toute la journée, un peu de tout ça. Manger un peu de chocolat noir, bravo. Boire un ou deux verres de vin rouge par jour. Hein. Boire du thé vert. Manger du curcumin dans sa soupe. Manger des myrtilles, des mirabelles, des pommes avec la peau bien lavée, parce qu'il y a des pectines dans la pomme qui sont essentielles pour faire tomber, c'est des éponges à cholestérol. Des choux de Bruxelles, des brocolis, des oignons, de l'ail, etc. Tout ce que j'ai mis là, en synergie, les uns avec les autres, font que votre corps se maintient mieux, vous avez moins de risques de maladies et vous avez un ralentissement de vos processus de vieillissement. Vous pouvez vieillir jeune au lieu de vivre plus vieux. Tout le monde s'en fout de vivre plus vieux. Ce qui est intéressant, c'est de vieillir jeune. Ça, c'est une autre chose. Alors voilà les règles d'or de l'épigénétique dont je vous ai parlé. Si vous allez sur YouTube et vous tapez De René épigénétique, vous allez trouver en 3 minutes et demie l'explication de ce que c'est. Ça a été vu, je vous le dis, plus de 5 millions de fois. Donc, les clés de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un mot scientifique compliqué qui veut dire le maintien de l'équilibre du corps. Et donc la santé permanente, être en bonne santé plutôt que de se soigner parce qu'on pense que ça ne va pas. C'est la nutrition équilibrée. Je l'ai dit, moins de graisse, moins salé, moins sucré. C'est l'exercice de 20 minutes quotidien, régulier, pas besoin de faire des trucs excitants, mais des trucs très simples, monter des escaliers, marcher. La gestion du stress par le yoga, la méditation, le bon sommeil. Le plaisir de faire ce qu'on fait et tout ce que l'on peut faire aussi en plus de son travail et de ce qu'on aime, l'amour, la bonne bouffe. Et le réseau social et familial en harmonie. Parce que ça, c'est générateur de stress et générateur de beaucoup de maladies quand ça ne marche pas. Donc voilà un peu les règles. Alors, je vous ai parlé des nouveaux outils, je vous parle maintenant des nouveaux usages. Une révolution du numérique, c'est de pouvoir passer des bits d'informations qui circulent sur Internet à des objets physiques qu'on peut prendre avec ses mains. J'ai fait un article en octobre 2006 dans Le Monde qui s'appelait « Les MUP, les micro-usines personnalisées, fabriquer des objets chez soi ». Ça a eu un buzz absolument incroyable et depuis 2006, on est en 2016, vous avez vu le développement incroyable des imprimantes dites 3D, que j'appelle les micro-usines personnalisées. Ces imprimantes 3D, retenez ça, je le disais rapidement dans mon introduction, les coûts diminuent, la vitesse augmente et elles deviennent tout matériaux. On peut fabriquer des objets en plastique, des objets en ciment, des objets en céramique, on peut faire des maisons avec des imprimantes 3D de la taille d'une maison, on peut utiliser des métaux comme l'or, l'argent, le platine. Bonjour les bijoutiers. Attention au modèle déposé. Tout ça, c'est des problèmes qui se créent en même temps que ces outils incroyables qui se développent aujourd'hui. Alors tout ceci, le numérique dont je vous ai parlé rapidement, est en train de changer complètement l'organisation du travail, le style de travail et les modèles d'entreprise. Vous avez entendu parler de l'ubérisation, c'est un mot que j'ai créé il y a 4 ans, que mon ami Maurice Lévy, le patron de Publicis, a repris, et que Maurice Lévy, c'est Maurice Lévy, donc on l'attribue plus à lui que moi, mais je m'en fous. Je m'en fiche de la paternalité de mes produits. L'important, c'est que les gens parlent de tout ça. Donc l'ubérisation, le travail indépendant et le management. Parlons-en un petit peu. D'abord, pourquoi les choses changent directement sur nous et la génération montante qu'on appelle les millennials? Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes augmentés. Grâce à ces outils puissants que nous avons dans nos poches, grâce à la possibilité d'interagir sur un environnement qui répond à ce qu'on lui demande, s'il s'agit d'un objet qu'on veut acheter dans un supermarché, on nous envoie la vidéo de la manière dont il fonctionne, on est devenus des hommes et des femmes augmentés. Nos yeux et notre cerveau voient plus de choses et reçoivent plus de choses que nos 5 sens. On est né avec 5 sens, on en a 8 ou 9. Le sens de l'orientation avec le GPS, le sens de l'ubiquité avec les webcams, le sens de l'ubiquité avec les logiciels qui vous permettent de savoir où sont vos amis ou vos enfants s'ils le veulent. Donc nous sommes des hommes et des femmes augmentés. Nous avons changé, nous sommes différents. Et surtout la génération des millennials, ceux qui sont nos enfants ou nos petits-enfants, eux, ils sont en train, grâce à ces outils numériques et à leur culture numérique, de changer le monde autour d'eux. Ils sont en train de surfer la vie à une vitesse incroyable. Ce qui les intéresse, c'est la vitesse et l'interactivité. Ils s'ennuient très vite dans des entreprises trop lentes. Ils s'ennuient trop vite avec des politiciens qui sont trop lents à dire ce qu'ils allaient dire. Ils s'ennuient très vite avec ce qui ne va pas à un clic. Alors peut-être que c'est exagéré, qu'on les considère comme trop superficiel, mais la vitesse et l'interactivité, pour eux, c'est essentiel. Donc les entreprises qui ne sont pas rapides et pas interactives, attention, ils vont se faire ubériser. La coéconomie, la co-création, c'est leur volonté d'être. Ils créent en commun, ils créent des start-up, ils échangent des idées, ils échangent des données, la co-construction, le partage aussi. La personnalisation, ils veulent des produits pour eux, directement pour eux. Il faut qu'on sache, par exemple, si on les suit avec les outils dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut fabriquer des aliments, en fait, sur mesure, en fonction du type de sport ou du type d'activité qu'une personne a. Donc on peut en rentrer en relation personnalisée grâce aux outils numériques avec ces gens et leur offrir ce qu'ils veulent pour être bien dans leur vie, bien dans leur peau et en bonne santé. Et puis ils nous apprennent surtout une chose extrêmement importante qui met en cause un peu le marketing traditionnel et la publicité traditionnelle, c'est qu'ils nous aident à passer de la société de l'information, rappelez-vous c'était la grande mode il y a 10 ans, on disait on est dans la société de l'information, les autoroutes de l'information, blablabla. Moi-même j'ai dit ça. J'ai écrit des trucs là-dessus il y a 15 ans. Mais grâce à eux, et grâce à ce qu'ils nous ont appris, on passe de la société de l'information à la société de la recommandation. Ils passent leur temps à se recommander des trucs entre eux. Ce bouquin, il est bien. Ce film, il est bien. Va voir ça. Ça, c'est bien. Ne va pas voir ça. Télécharge pas ce logiciel. Il est nul. Il va t'apporter des virus. Et donc, de ce fait, le marketing traditionnel qui consiste à aller d'une entreprise ou d'un service ou d'un produit vers les gens, avec les outils adaptés, éventuellement Internet, et avec des modes de contact très performants, il est à l'envers maintenant. Le vieux marketing, c'était dans ce sens-là. Le nouveau marketing, c'est de faire en sorte que les valeurs de l'entreprise, les valeurs qu'on affiche, les soucis pour l'environnement, les soucis pour le social, font que les gens disent, entre eux, ils sont vachement bien ces gens-là, j'aime bien leurs valeurs. J'aime bien ce qu'ils font pour la société, j'aime bien ce qu'ils font pour l'environnement. Je vais aller plutôt acheter leurs produits et leurs services. Donc c'est un marketing à l'envers. De même pour la pub traditionnelle, cette génération-là s'en méfie de plus en plus. Ils ont été tellement baladés par la pub qu'ils croient au buzz. C'est-à-dire ce que l'on dit entre eux, alors qu'on peut vérifier, on peut sur les réseaux sociaux demander à quelqu'un « qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ?» Donc ces bouleversements numériques dont je vous parle depuis un instant fait que le travail lui-même est en train de changer. On voit émerger dans le monde entier des générations de travailleurs indépendants, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des gens qu'on appelle aux États-Unis les slashers, comme le slash, les slashers ou bien des freelancers, des gens qui travaillent en freelance de manière intermittente, un job par-ci, un autre en même temps, plusieurs en même temps, en réseaux sociaux, en job en peer-to-peer. C'est-à-dire que c'est en train d'émerger. Déjà, aux États-Unis, il y a plus de 30 millions, ils seront 44 millions d'indépendants aux États-Unis en 2020. 44 millions. En France, on est déjà 2,8 millions d'indépendants. Et le chiffre s'accroît à une vitesse extraordinaire. Et parmi ces indépendants, il y a tous ceux qui ont créé, alors ils ont déjà maintenant 35 ans et presque 40 pour certains d'entre eux, les conditions de l'ubérisation. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais les NATU, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, sont des exemples d'entreprises qui, grâce à des logiciels qu'on appelle des algorithmes, d'offres et de demandes extrêmement simples qu'on peut mettre sur nos smartphones, ont créé une possibilité de modifier complètement des entreprises, vous le voyez en, de haut, en bas dans le sens des aiguilles d'une montre, de voyage, dans l'alimentation, dans la santé, dans les services à domicile, dans la logistique, dans la mode et la beauté, l'éducation, le financement, la banque, l'assurance, les transports, le marketing. Déjà, ces boîtes qui sont trop lourdes, trop chères, pas assez transparentes, peu réactives, sont ubérisées ou ubérisables pour celles qui ne le sont pas encore. En fait, les ubérisateurs que je viens de citer, Airbnb, GAFA, etc., qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont une fine couche, rappelez-vous cette expression, une fine couche humaine et numérique qui se superpose à des énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts pour entrer en contact grâce aux algorithmes d'offres et de demandes sur les smartphones à une multitude de gens, nous, où se trouve le fric. C'est ça qu'ils ont compris. L'ubérisation, c'est de désintermédier ces gros colosses lents, trop lourds, trop peu transparents et trop chers, en s'adressant directement à nous avec des logiciels d'offres et de demandes intelligents. Voilà la révolution de l'ubérisation. Mais le numérique change aussi l'entreprise. Si les indépendants s'accroissent partout, si la génération montante se méfie de la hiérarchie pyramidale et du top-down, de la pyramide du haut vers le bas dans le style de management, s'ils s'en méfient, ils cherchent à être des indépendants dans une entreprise, qu'on leur fasse confiance, qu'on les écoute. Et c'est pourquoi on va de plus en plus vers une entreprise que j'appellerais une coopérative d'indépendants. Bien sûr, c'est toujours structuré comme une entreprise, mais ce n'est pas du tout pareil de manager une coopérative d'indépendants que de manager une entreprise où on est à la fois un programmeur, un régulateur, un contrôleur, un punisseur et un récompenseur, ou au féminin aussi. Donc le manager augmenté, et pas seulement, il ne sera pas seulement augmenté dans les années à venir par des outils numériques que je vous ai décrits et l'environnement intelligent, mais il sera de plus en plus augmenté, s'il sait y faire, par les gens, par les humains. C'est pour ça que j'ai ajouté lien humain, lien social, à côté des technologies et réseaux. La clé du management dans le monde du numérique et dans un monde d'indépendants va résider sur la capacité à faire confiance aux gens. Voilà les 5 caractéristiques que je donne aux managers du monde du numérique et aux managers et aux entrepreneurs que vous êtes tous aussi. Et j'ai mis une femme là parce que je pense qu'en 2030, les comités exécutifs qui n'auront pas au moins 50% de femmes seront soit en voie de disparition, soit auront déjà disparu. Donc les atouts du manager et de la manageuse de l'entreprise de 2030, puisqu'on parle, comme l'a dit Sylvain Bonnet tout à l'heure, de notre futur, ce sont 5 caractéristiques que j'aimerais que vous reteniez, mais vous les appliquez sûrement vous déjà dans votre monde autour de vous. 1, le charisme. Je vous ai entendu tout à l'heure avec enthousiasme applaudir ces formidables musiciens, tous trémoussés sur vos chaises. Donc, beaucoup d'entre vous ont les outils dans vos poches et l'attitude du charisme. Le charisme, c'est entraîner les gens avec vous. Deuxièmement, la vision. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut faire de la prospective, on peut être abonné à des newsletters, on peut être abonné à Twitter qui vous permet de savoir ce qui se passe dans le monde. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, Twitter n'est pas un outil pour faire des ragots sur les hommes et femmes politiques. C'est un outil extraordinaire d'information sur ce qui va se passer dans le monde. On peut donc avoir une vision, entraîner les gens par le charisme grâce à cette vision, avoir des valeurs. Je terminerai ma toute dernière diapo tout à l'heure, ce sera une diapo sur les valeurs auxquelles je crois pour construire ensemble, comme le disait Sylvain Bonnet, le monde de demain. L'écoute, fondamentale. Si on n'écoute pas les gens, on ne peut pas prendre la mesure, on ne peut pas prendre le pouls de son entreprise et comprendre où elle va et comment faire en sorte que les gens soient heureux d'aller où on leur dit d'aller, où on leur dit ensemble d'aller. Et enfin, la confiance. Et les deux derniers, c'est ce qui manque aux politiques. Les politiques aujourd'hui n'écoutent pas et ne font pas confiance. Les politiques d'aujourd'hui n'écoutent pas et ne font pas confiance à la génération qui monte, à ceux qui ont entre 15 et 25 ans aujourd'hui, qui sont des créateurs de start-up, qui sont ceux qui sont en train de changer le monde. On ne les écoute pas. Et comme les parents et les professeurs, les politiciens disent ils sont superficiels, ils survolent les choses, ils sont dangereux parce qu'ils ne vont pas à fond. C'est faux. Cette génération-là, j'étais avant-hier à Hello Tomorrow Challenge. au 104 à Paris, qui est un énorme lieu de conférence, il y avait 4 ou 5 000 jeunes entre 15 et 25 ans, créateurs d'entreprises dans les domaines de la santé, de la médecine, du numérique, des médias. Mais évidemment, Emmanuel Macron est venu. Il était là parce qu'il a compris cette génération-là, lui. Entre autres, je ne fais pas de politique, je dis simplement une personne qui était là et que j'ai rencontrée, avec qui j'ai bavardé. Donc, les politiciens ne font pas assez l'écoute et ne donnent pas assez confiance à ces jeunes. Alors, maintenant, le numérique, ce n'est pas seulement la vie des entreprises, c'est aussi la vie des entreprises. Mais les entreprises, elles sont dans un écosystème. Un écosystème qui est une ville où elles-mêmes constituent des écosystèmes avec d'autres entreprises connectées les unes aux autres. Tout de suite, d'abord, la maison, notre maison et nos bureaux. De plus en plus, grâce au numérique, notre maison et nos bureaux, et ça change le travail, se transforment en éléments contrôlables avec la télécommande universelle dont je vous ai parlé, qu'on appelle le smartphone. Vous vous souvenez, il y a un autre mot, comme jadis on parlait d'Internet, jadis on parlait de la domotique, c'est-à-dire une maison contrôlable de l'extérieur pour faire couler un bain, fermer les rideaux ou mettre de la musique avant qu'on arrive. Eh bien, ça ne marchait pas. La domotique, ça n'a pas marché du tout parce que chacun avait son standard. Schneider avait son standard, Sony avait son standard, Philips avait son standard. Et il fallait acheter une armoire qu'on mettait à l'entrée de chez soi qui ne marchait qu'avec le standard de la boîte en question. Ça n'a pas marché du tout. On en a parlé, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça marche maintenant et ça explose dans le monde entier ? Parce que c'est ce qu'on appelle grâce à l'interopérabilité. Le mot est un peu compliqué, mais l'interopérabilité, ça veut dire que tout communique avec tout. Pourquoi ? Parce que le protocole Internet, que ceux qui le savent, ça s'appelle le protocole TCP/IP, il est là. La Wi-Fi ou le Wi-Fi, il est là. Bluetooth, il est là. Et le smartphone aussi. Donc avec le protocole Internet, le Wi-Fi, Bluetooth et le smartphone, tout devient connectable dans la maison. D'ailleurs, Apple, peut-être certains d'entre vous ont Apple TV. Moi, j'ai acheté le petit box d'Apple TV à la Fnac. Ça coûte 110 euros. Avec ça, vous avez tous les films de la Terre et toutes les séries télévisées. Mais ils sont en train de transformer l'Apple TV en hub pour contrôler toute la maison grâce au smartphone. Ça, c'est un changement du numérique. L'autre changement du numérique, c'est l'on peut coordonner la production d'énergie dans un bâtiment qui devient à énergie positive, c'est-à-dire qu'il fabrique plus d'énergie qu'il en consomme. Ça, en France, on n'a rien compris. Malheureusement, nos visionnaires pyramidaux des filières nucléaires ou de l'énergie fossile n'ont absolument pas compris que le futur de la transition énergétique, c'est un mix entre les énergies qui sont alternatives, le soleil et le vent, il n'y en a pas tout le temps, et les énergies permanentes, les ressources comme la biomasse, l'hydroélectricité, la géothermie qui sont là. Le tout, c'est de les connecter entre eux, justement grâce au numérique et grâce à des grilles intelligentes qui s'adaptent à l'offre et à la demande et qui permettent de faire circuler l'électricité. Donc là, vous avez un exemple de maison à énergie positive avec des panneaux solaires sur le toit, photovoltaïques, des panneaux thermiques, un digesteur à déchets qui fabrique du biogaz, une éolienne si on a du vent, une mini centrale hydroélectrique si on a un petit courant d'eau près de chez soi. Le tout de ce que j'essaye d'expliquer là, c'est que le futur, grâce au numérique, de la gestion de notre transition énergétique est la voie vers la démocratie énergétique. En ce moment, on n'est pas en démocratie énergétique. Il y a des systèmes totalitaires qui fabriquent de l'électricité ou des carburants qui nous disent « Vous prenez des carburants à la pompe, je m'occupe du reste. Vous payez l'électricité au compteur, je m'occupe du reste. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Mais grâce à ça, au mix énergétique renouvelable, c'est-à-dire toutes ces formes d'énergie que vous voyez là, vous les connaissez tous, mais peut-être vous les avez jamais vues rassemblées sur une même diapo, qui fait que moi je parle quand on m'interroge, quand les gouvernants m'interrogent et les ministres me demandent mon avis, je fais très souvent des interventions sur ce sujet, je parle de l'énergie renouvelable au singulier. Elle fait partie des trois E. Pourquoi je dis l'énergie renouvelable au singulier ? Parce que quand on dit les énergies renouvelables, on pense que le solaire est meilleur que l'éolien est meilleur que l'hydroélectricité, et on se bagarre entre filières. Quand on dit l'énergie renouvelable, c'est le mix de tout ça. Et les deux autres E, c'est économie d'énergie et efficacité énergétique. Grâce au numérique, les gens peuvent, avec leur smartphone et leur environnement cliquable, contrôler la dépense d'énergie dans leur future maison à énergie positive. Grâce au numérique et à leur smartphone, les gens peuvent contrôler la climatisation ou autre. Donc, les trois E et l'énergie renouvelable, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique peuvent fournir, grâce à une grille intelligente qu'on appelle en anglais une smart grid et que moi j'appelle Enernet, qui sera dans les années à venir plus important qu'Internet. Enernet, c'est le partage de l'électricité entre nous en fonction de l'offre et en fonction de la demande, la résistance aux intempéries, la possibilité de stocker l'électricité, par exemple dans les voitures électriques qui sont dans un garage 95% du temps, et de restituer cette électricité à la grille intelligente. Donc, la clé de la transition du futur, grâce au numérique, c'est de ça dont je vous parle, c'est de combiner les énergies entre elles, avec les économies, avec des machines plus efficaces, et de distribuer cette électricité dans une smart grid. Le plus étonnant, c'est que grâce à quelque chose dont je vais vous parler dans un instant, qui s'appelle la blockchain, peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, la blockchain, ce sera plus important même qu'Internet. C'est un système d'échange en peer-to-peer, hyper sécurisé, transparent, non modifiable, qui permet de se vendre des choses entre nous. Par exemple, si vous voulez acheter un terrain, plus de notaire. Terminé. Vous passez un smart contract grâce à la blockchain, et le smart contract va gérer les échéances, les conditions du contrat, les versements dans votre banque ou dans la banque de la personne à qui vous avez acheté ou vendu. Donc, déjà les banques en France, les grandes compagnies d'assurance, les distributeurs de produits qui nécessitent des concessionnaires, tous les intermédiaires que l'on a autour de nous, le middle management, est en train de progressivement ou disparaître ou avoir à s'adapter grâce à la blockchain. Pourquoi je vous dis ça dans le cadre de la smart grid? Parce que déjà dans plusieurs pays, notamment à Brooklyn, près de New York, les gens se vendent de l'électricité entre eux grâce à la blockchain. Ils ont des bâtiments à énergie positive, ils en fabriquent plus qu'ils en consomment, et grâce à la blockchain, ils en vendent et ils gagnent de l'argent. Peut-être l'avez-vous vu passer, mais la presse n'en a pas beaucoup parlé. Le 26 juillet de cette année, EDF a fait passer un décret donnant le droit, on croit rêver, à nous, les vulgum pecus, donnant le droit à chacun d'entre nous de nous vendre de l'électricité entre nous sur la smart grid qui est en train d'émerger parce que la France, dans un pays aussi centralisé que le nôtre, est peut-être un des plus avancés au monde dans le domaine de la smart grid. Donc tout ceci pour vous montrer que le numérique a un impact non seulement sur nos entreprises, mais aussi sur notre mode de vie, sur notre environnement et sur l'énergie. Et évidemment les transports. La transmobilité, c'est le fait de pouvoir choisir la mobilité qu'on veut. Jadis, on disait, il faut que j'ai ma bagnole. J'ai ma bagnole, c'était le rêve de nos parents, nous disaient, il faut que tu passes un diplôme pour avoir une situation dans une entreprise, comme ça tu pourras emprunter à la banque pour t'acheter ta voiture, emprunter à la banque pour t'acheter un appartement. La génération actuelle dit, moi je m'en fous de posséder une voiture, j'ai le Vélib, j'ai l'auto libre, j'ai Blablacar, qu'est-ce que je vais avoir à me casser une bagnole qui reste 95% du temps en stationnement, payer des assurances, faire de la maintenance, trop cher. Et un appart, pas besoin, j'ai Airbnb, partout où je vais aller, j'ai mon logement. Donc, ça a changé, et Rifkin l'avait très bien prédit dans son livre « L'âge de l'accès », qui a déjà 10 ans, que la notion de propriété allait progressivement laisser sa place à la notion d'accès, d'accès à quelque chose que l'on utilise, d'où la société du partage et la coéconomie. Donc, Autolib, Vélib, Uber... C'est possible grâce au numérique. Encore une fois, je vous parle du numérique depuis le début de mon intervention. Imaginez que vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'il y a un vélo de libre ou où est-ce que vous avez une place de vélo pour le mettre là où vous allez. Ça ne marche pas. Vous prenez une auto libre, vous dites je vais à tel endroit. S'il n'y a pas de place pour mettre votre auto libre et la recharger, là, le numérique vous le dit, il vous donne la carte de l'endroit où se trouve la voiture. Et plus que ça, un transport individuel se transforme en transport collectif. Bizarre, non? Mais quand vous avez, comme à Paris, il y a quelques jours, Paris sans voiture, des milliers, des dizaines de milliers de gens en Vélib, ils étaient seuls sur leur Vélib, mais des dizaines de milliers de gens en Vélib, avec le numérique, ça fait un transport collectif. Des gens en Autolib, tout seuls dans leur Autolib, mais ils sont des milliers à voyager en Autolib, c'est un transport collectif. Donc c'est un bouleversement complet de notre système de transport, encore une fois, grâce au numérique. Alors je vais terminer par cette notion que tout le monde se pose, c'est cette question, mais comment s'adapter à une évolution que vous nous avez dit être exponentielle, ça va de plus en plus vite. Pour ça, il faut changer notre type de modèle d'entreprise. Et je pense que des entrepreneurs et des indépendants comme vous, c'est extraordinaire ce que vous faites, parce que vous êtes au cœur de ce changement de structure, de la capacité de faire de l'offre et d'aller vers des demandes sur des produits intelligents qui touchent la vie des gens. Donc je pense que la première des choses, c'est de passer des rapports de force en rouge, comme ça, au rapport de flux en bleu. Un rapport de force, on ne peut le quitter, c'est par exemple des partis politiques l'un contre l'autre, des forces militaires ou nucléaires l'une contre l'autre, on ne peut en sortir que par une escalade. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le dessus et l'autre doit aussitôt prendre le dessus. Donc c'est discontinu, c'est dangereux, c'est fragile. Comme, comme le bras de fer, par exemple, que vous voyez en haut à droite. Le rapport de flux, la différence, c'est qu'il nécessite de l'information. Si j'échange de l'argent, des idées, de l'information, j'ai besoin de savoir ce qu'on me donne et eux ont besoin de savoir ce que je donne. Le win-win se fonde sur un échange d'informations mutuelles. Donc les rapports de flux sont beaucoup plus souples que les rapports de force. Ils permettent de gérer les choses différemment, dans la collaboration, dans le respect mutuel, dans la confiance. Alors que le rapport de force est discontinu, il me l'a fait, je vais lui faire la prochaine fois. On n'en est pas du tout là. Le rapport de flux, c'est comme un réservoir qui se remplit et se vide en même temps. Si le robinet d'arrivée est le même débit que le robinet de sortie, le niveau reste constant. Pas statique, stationnaire. C'est-à-dire que les molécules d'eau se renouvellent tout le temps, mais on peut décider à quel niveau on veut que soit, à quel endroit, on peut mettre un trait au stabilo sur un réservoir transparent, à quel endroit on veut que soit le niveau de l'eau. Rapport de flux se fonde sur l'information. Donc nous sommes aujourd'hui dans des entreprises et des gouvernements et des systèmes politiques de type pyramidaux. Les ordres viennent d'en haut, l'exécution est en bas. Les présidents, les premiers ministres sont en haut, les électeurs en bas. Il ne reste pas beaucoup de choses à faire pour participer que de mettre un bulletin dans une urne, répondre à des sondages d'opinion ou à des référendums. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux et le numérique, la participation, on peut arriver vers une co-régulation citoyenne participative? Si vous lisez mon tout dernier livre qui est sorti il y a 2 semaines, vous verrez la référence à la fin de mon exposé. Il s'appelle « Je cherche à comprendre ». Je raconte tout ça en long et en large, comment les systèmes politiques sont en train de se faire ubériser par des nouveaux outils et une nouvelle attitude, une nouvelle culture. Donc l'entreprise, avec ses outils numériques, comme GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, se transformait progressivement en plateforme. Qu'est-ce qu'une plateforme? Une plateforme, c'est un écosystème adaptable qui intègre rapidement des nouveaux produits et des nouveaux services, grâce à qui? Aux clients, aux stakeholders, aux participants, aux associés, grâce aux technologies numériques, et ceci au bénéfice mutuel des acteurs. C'est un changement complet, ce n'est pas une entreprise unidirectionnelle qui fabrique des produits qu'on utilise et qu'on jette. C'est une entreprise qui utilise ses propres clients pour créer de la valeur ajoutée chez elle. C'est une plateforme d'intelligence collaborative. Alors on entend souvent dire que Google est une entreprise de publicité. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Google n'est pas une entreprise de publicité, c'est une plateforme d'intelligence collaborative qui nous utilise, nous, comme des pronétaires. Des pronétaires, je n'ai pas dit des prolétaires, parce que c'est des pour, c'est des gens qui sont pour et sur le net, nous tous. Qui nous utilisent comme des pronétaires pour fabriquer chez eux de la valeur ajoutée avec toutes les informations qu'on laisse chez eux. Chaque fois qu'on fait une recherche chez Google, chaque fois qu'on poste quelque chose sur Facebook, chaque fois qu'on achète un bouquin sur Amazon, chaque fois qu'on laisse des informations, ils les réutilisent dans leur big data pour le revendre à des clients très chers. Donc en fait, on est dans un système de win-win. Moi, j'ai besoin de Facebook, et vous aussi, j'ai besoin de Google. Et en même temps, ils se servent de nous comme ils sont des plateformes intelligentes et qui se développent énormément. Alors je vous ai dit que la blockchain allait tout révolutionner. Alors certains d'entre vous ont entendu parler du mot. Ceux qui n'en ont pas entendu, il faut qu'ils aillent sur Internet chercher ce que c'est que la blockchain. La blockchain, c'est un registre extrêmement encrypté, mais transparent. Tout le monde peut voir ce qui se passe, mais on ne peut rien changer. Et donc cette blockchain, elle va permettre le peer-to-peer, le partage d'informations entre nous et la possibilité d'échanger et de même se vendre des tas de choses. Le big data, c'est une ressource fantastique pour l'entreprise parce qu'on peut creuser dedans avec des moteurs d'intelligence artificielle et on peut en même temps extraire des informations utiles pour l'entreprise. Les MOOC, c'est un système de formation permanent, formation continue, gratuite. Toutes les grandes universités le font et maintenant la Sorbonne, maintenant l'INSEAD et les entreprises le font sur leur intranet, donc se former. Alors comment manager les organisations fluides? C'est accompagner le pouvoir transversal plutôt que le pouvoir pyramidal. Manager par catalyse, c'est-à-dire donner aux gens les structures universitaires et leur transférer les besoins en personne, en investissement et en technologie pour qu'ils résolvent les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont. C'est d'importer dans l'entreprise les outils d'Internet, dont j'ai beaucoup parlé, mais dans l'entreprise sur les intranets, se former par les MOOC, utiliser la culture numérique de la génération montante, parce qu'un stagiaire de 20 ans ou 25 ans ou une stagiaire fera beaucoup plus en 3 mois que des ingénieurs payés très cher en 3 ans, pour changer l'entreprise de l'intérieur et promouvoir les systèmes innovants plutôt que seulement l'innovation. L'innovation, ce n'est pas un produit ou un service, c'est un système innovant, c'est le processus qui est important, un processus dynamique, un processus qui permet de faire émerger des systèmes innovants plutôt qu'une innovation. Alors méfions-nous quand même de ces gens-là, parce que ces nouveaux monopoles du numérique en train de se créer, ils sont devenus des entreprises-États. Nous sommes des États-nations, eux c'est des entreprises-États avec une capitalisation boursière absolument incroyable, un cash qui leur permettrait de racheter l'industrie automobile française, et les entreprises-États sont en conflit avec les États-nations pyramidaux. Et malheureusement, ils sont en train de gagner. Ils peuvent exporter leurs profits où ils veulent, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Donc, le seul moyen de lutter contre eux, j'ai déjà prononcé rapidement ce mot tout à l'heure, c'est la co-régulation citoyenne participative. C'est-à-dire nous, en réseau, on peut faire une sorte de boycott, de cyber-boycott, mais ça, je ne peux pas en parler maintenant parce que mon temps est terminé. Donc, je finis en deux diapos. Le premier, c'est les valeurs. Je vous ai parlé de valeurs en commençant. Quand j'ai parlé du manager et de la manageuse de demain, j'ai dit qu'il fallait non seulement du charisme, de la vision, de l'écoute, de la confiance, mais des valeurs. Les valeurs, c'est le partage et la formation, la solidarité, la générosité, l'empathie, se mettre à la place des autres pour comprendre leurs émotions, ce que font pas du tout les politiques en général, malheureusement. L'altruisme, c'est pas un altruisme bisounours, du genre « je fais le bien parce que c'est bien ». Non, c'est un altruisme fort. Je donne et je reçois. Comme dans le win-win. Le respect des diversités des idées, le respect des autres dans l'entreprise et ailleurs, l'éthique, une éthique fondamentale pour être toujours et jamais en train de tricher, toujours dans la ligne morale qu'on s'est fixée. L'entrepreneuriat, vous êtes des entrepreneurs et c'est un métier formidable parce que vous pouvez innover, vous êtes vos propres patrons, vous pouvez aller de l'avant, continuer. Et je termine par ces mots que vous voyez là en rose. Ces mots, ce sont ceux qu'on utilise à la Cité des Sciences. On reçoit tellement de gens, on reçoit 3 millions de personnes chaque année. On a reçu 90 millions de personnes en 30 ans. Et la moitié des gens qui viennent chez nous ont moins de 25 ans. Donc, ce que je leur dis, il faut comprendre le futur qui vient. Il est complexe. Vous avez entendu, je vous ai parlé de numérique, je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé de santé, je vous ai parlé d'écologie. Donc, il faut comprendre ensemble le futur qui vient. Deuxièmement, il faut vouloir ce futur. Parce que si on ne le veut pas, il nous tombe sur la tête. Et on est toujours en retard. Il faut être comme des surfeurs sur la vague, en train de s'adapter dans un déséquilibre contrôlé pour pouvoir essayer d'anticiper ce futur et de s'adapter. Troisièmement, il faut aimer le futur. C'est ce que j'essaye dans mes livres, dans mon tout dernier livre. Vous allez le voir, vous allez être surpris de mon attitude de scientifique. De faire aimer, je parle d'amour, de fraternité. Je pense qu'il faut aimer non seulement le futur qui vient, mais les gens qui fabriquent ce futur avec vous. C'est en les aimant qu'on se rapprochera et qu'on ira ensemble construire l'avenir ensemble, comme le disait très bien Sylvain Bonnet tout à l'heure dans son introduction, plutôt que de le subir. C'est ce que je vous souhaite dans cette belle manifestation de cet après-midi. Vous faites un métier formidable. Bonne chance à tous et à bientôt dans le futur.
Merci beaucoup. Voilà qui est inspirant. Je vous l'avais dit, hein. Merci Joël de René. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et de nous avoir éclairé le chemin vers demain. Et on a bien saisi que demain était déjà là. Merci infiniment. Rappelez-nous votre livre.
Je cherche à comprendre.
Je cherche à comprendre. On est en voie de compréhension. Grâce à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment.